Et voici Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, le musée dans tous ses états. Une émission de l'Académie Clémentine présentée par Nicole Sabag. Bonjour Nicole.
Bonjour José, bonne année.
Bonne année à vous pour cette première émission de 2010. Vous parlez de peinture et de musique en compagnie de votre invité Alain Danguin.
Oui, je suis très contente de commencer l'année avec vous. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être...
Bonne année également.
Vous aussi, et bonne année à tous nos auditeurs. On commence 2010 en beauté parce que non seulement je reçois un peintre, mais je reçois aussi un musicien. Alors, on va essayer de faire le distinguo entre vos deux passions, si ce n'est trois, parce que je crois que vous en avez une troisième qui est l'enseignement.
Oui, également, oui, bien sûr. Je cumule les passions, c'est bien.
Alors, on va parler peut-être, on est dans une émission... plus artistique. Donc, on va d'abord parler d'Alain Danguin, peintre. Est-ce que, je pense pas, il n'y a pas de hiérarchie dans vos trois passions?
Il y en a par le temps. Disons que la partie musicale me prend énormément de temps parce que l'orchestre, il y a un planning. Enfin, on est obligé donc de suivre ce planning et d'adapter, disons, les autres passions par rapport à ça.
Voilà, vous êtes clarinette solo, parce que je crois qu'on l'a pas dit, vous êtes clarinette solo de l'orchestre Orpaca.
Voilà, de l'orchestre régional, oui, avec Philippe Binder. Et puis voilà, j'enseigne également au conservatoire de Cannes et de Grasse. Et parallèlement, je fais de la peinture depuis toujours. Donc, mais ça, j'ai même commencé la peinture bien avant la musique, parce que dès que j'étais, si mes souvenirs sont bons, depuis l'école maternelle, pour avoir le calme, on me mettait dans un coin avec un crayon et une feuille de papier.
Ah bah donc, c'est peut-être à cela qu'on doit vos talents.
Oui, voilà. Donc, j'ai toujours adoré ça. Alors, j'étais dans un milieu familial qui permettait aussi d'avoir accès beaucoup, par exemple, il y avait toujours des bouquins d'art qui traînaient, je me souviens très bien du cubisme par Picasso. Alors quand on est très petit, c'est très important, je trouve, d'avoir la possibilité, je dis ça pour tous les parents qui écoutent l'émission, de laisser la disposition pour les enfants, sans leur imposer, mais qu'il y ait des livres d'art qui traînent ou de la musique qui passe. Très important à mon avis, parce que ça détermine vraiment si la sensibilité de l'enfant y est. Évidemment, tous les enfants ne vont pas faire peintre ou musicien uniquement parce qu'on laisse des bouquins, ce serait trop facile. Mais j'avais cette possibilité-là, effectivement, parce que mon père lui-même
était peintre-décorateur, c'est
ça ? Voilà, était peintre-décorateur.
C'est-à-dire, expliquez-moi ce que c'est qu'un peintre-décorateur.
Alors, peintre-décorateur, c'est quelque chose qui existe toujours. Hein. Je pense que dans notre région, sur Monaco, où, par exemple, le faux bois, le faux marbre...
Le trompe-l'œil, c'est ça ?
C'est un peu différent du trompe-l'œil. C'était bon, il y avait la feuille d'or, c'était ce métier donc artisanal que faisaient les gens à cette époque. Il y avait une grande école qui s'appelait l'école Blot, que mon frère a fait également, qui lui est sérigraphe. Donc on est tous trempés un petit peu dans cette ambiance-là. Le père de Braque, par exemple, on retrouve des fragments dans la peinture de Braque, notamment dans ses compositions cubistes, où on voit des faux bois qui ont été faits avec des peignes à bois. Donc c'est une époque. Alors là, ça me rajeunit pas.
Donc tout ça se passait dans le Nord, non, à Valenciennes?
Voilà, dans la région du Nord, à Le Quesnoy précisément. C'est une petite ville de 6000 habitants près de Valenciennes. Valenciennes était un pôle de pour l'art assez important. C'est une succursale pour les beaux-arts de Paris. Lorsque mon père était, bon, évidemment, il y a Watteau, il y a tout ça, il y a toute la.
Watteau, vous prononcez. Vous avez la prononciation du Nord.
Toute cette région qu'on appelait la petite Athènes du Nord et qui permettait donc... Il y avait vraiment une école de beaux-arts très très importante.
Et vous avez suivi un cursus après... je parle de la peinture, là, on va parler musique très rapidement, mais vous avez suivi un cursus classique
Bien, écoutez, oui, bon, en ce qui concerne les beaux-arts, ça m'a surtout permis de rencontrer mon épouse, ça c'est très important.
Elle était, c'est la quatrième passion.
Voilà, elle était la première, on va dire.
Oui, c'est pas bien.
Donc, elle était aux beaux-arts, et moi je faisais... Ce qu'on appelait à l'époque, c'était les cours du jeudi, mais les beaux-arts, c'était à la maison avec mon père, avec on sortait les plâtres, et on faisait... du nu à travers les plâtres, on dessinait tout le temps. Et donc j'ai eu plutôt cet enseignement-là, et puis un peu aux beaux-arts, et voilà, ce qui m'a permis, comme les beaux-arts chevauchaient le conservatoire dans l'établissement, on pouvait aller de l'un à l'autre assez facilement. Et puis j'ai été aussi très attiré par la musique. Et voilà, ce qui est...
voilà, alors pour rester dans la peinture, vous venez d'exposer avec quatre autres artistes de la région à la Malmaison. Donc juste un petit mot sur les personnes qui ont exposé avec vous. Et puis on va tout de suite écouter après un fragment, un solo de clarinette magnifique que vous avez donné il n'y a pas longtemps en concert, le deuxième mouvement du quintet pour clarinette avec de Mozart. Donc on va juste
citer. Alors oui, cette exposition, d'abord je la dois à Frédéric Ballester, hein, qui est le directeur de la Malmaison et qui a sélectionné donc cinq artistes dont moi. Il y avait Yvon Lebelec, Frédéric Lanowski, Nivez et Bria Barry. Et donc on a fait une exposition, oui, les deux derniers mois de l'année précédente. Et voilà, quoi.
C'est une très belle exposition.
Ça a été pour moi, oui, c'était l'endroit est magique. Ah, c'était vraiment très, très intéressant.
On va écouter Mozart un petit peu et Alain Danguin. Oui.
Le peintre et musicien Alain Danguin est l'invité d'Amusez-vous cette semaine. Nous le retrouvons tout de suite au micro de Nicole Sabag.
Oui, c'était un concert que vous avez donné donc avec Guy Saint-Georges. On va citer tout de suite vos quatre co-musiciens avec vous. Donc Pierre Ben Saïd.
Voilà, Pierre Ben Saïd. Il y avait donc Bertille Dufour comme premier violon, qui est la super soliste de l'orchestre. Frédéric... Philippe Cochevert, excusez-moi, qui est violoncelle solo, et puis Esther Biro, qui est également à l'orchestre, et donc c'est un quatuor avec lequel j'ai eu la chance de travailler pour ce concert.
Magnifique. Bon, revenons un tout petit peu à la peinture, après ça on va parler musique quand même. Donc cette exposition, pour vous, c'était important? Est-ce que ça, plein de gens ont découvert finalement, des gens qui vous connaissent, qui vous voient au concert, ou qui vous écoutent au concert, et qui tout d'un coup ont découvert que vous étiez aussi peintre, non?
Mais oui, je crois que ça a surpris pas mal de gens, parce que il y a des gens qui savent que je peignais depuis longtemps, mais sans montrer. J'avais fait une exposition qui s'appelait « D'un rivage à l'autre » en 2000 au Palais des Festivals. Alors là, il y avait l'école de Nice et aussi de Marseille, donc essentiellement des professeurs et puis des gens dont c'est le métier, qui était assez pointu, et j'avais eu la chance d'exposer parmi eux encore une exposition de groupe. C'est vrai que pour les gens qui me connaissent en tant que clarinettiste, c'était un peu la surprise, parce qu'il y a une grosse différence. Vous-même, vous avez dit que vous aviez été...
J'avoue que je reste toujours très très surprise quand j'entends ce qu'on vient d'entendre là. Vous êtes c'est si sensible, c'est si pur, c'est si doux. Et quand on voit vos tableaux qui sont violents, qui sont puissants, qui sont durs, qui sont forts, on se demande comment. Alors je me suis toujours posé la question, est-ce que l'un est l'antidote? Vous voyez, est-ce que vous avez besoin des deux? Est-ce que l'un vous aide à l'autre? Enfin,
je sais pas si on a besoin des deux. On a la chance de faire les deux. Donc, quand on a la chance de faire plusieurs choses, on essaye de les faire bien. Parce que j'aime pas tellement faire les choses en amateur, même si c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais c'est que simplement là, la peinture, c'est moi, quoi. C'est-à-dire que là, c'est un exercice de création. Et Mozart, auquel je ne me compare pas, qui est le génie des génies, où là j'ai la chance de contribuer à une interprétation. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est là j'ai toujours. Ce sont deux choses complètement différentes. Il n'y a pas tellement de rapport entre musique et peinture. C'est là où c'est surtout si on est, à moins qu'on soit compositeur. Alors là, c'est certainement encore plus rare. Hein, mais voilà.
Et vous dites la peinture, c'est moi. Et dans un article que Aurore Busser vous a consacré, elle parle de, en ce qui vous concerne, de votre inspiration ou de vos tableaux, de la souffrance d'une société violente. Bon, donc la souffrance d'une société violente. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, non? Quelque part, vous sentez que cette société est violente et que la musique peut. Est-ce que la musique peut justement aider les jeunes? Vous parliez des enfants tout à l'heure, de cette société violente, les tirer vers le haut, les amener vers le meilleur?
Écoutez, oui. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps au niveau artistique avec les enfants, parce que ça me paraît essentiel que je pense qu'un gosse qui fait de la musique et devient meilleur. Alors ça, c'est je suis convaincu qu'en tous les cas, ça le structure complètement et que bon, j'ai rien contre le sport, par exemple, qui est censé jouer le même rôle, mais je pense que là, il y a vraiment de l'argent à mettre dans cette direction, parce que on vient de faire l'effort de faire l'orchestre à l'école, et ça se fait à Paris, partout, et tout le monde, enfin, ça fait l'unanimité en disant que les enfants sont plus structurés, que moi-même, j'ai ressenti. Bon, la peinture, c'est totalement différent. Là, on est soi, c'est presque une sorte de psychanalyse personnelle, et là, on se défoule, ça n'a rien à voir. Mais apprendre la musique, ce sont des règles, c'est vraiment quelque chose qui structure bien.
Oui, c'est ça.
À mon avis, oui.
Alors, on va rester dans la musique, on va écouter maintenant, toujours extrait de ce même concert, le début, malheureusement seulement le début, du deuxième mouvement du concerto pour clarinette de Weber.
Suite et fin d'Amusez-vous sur RCF Nice Côte d'Azur, Nicole Sabag.
Ah, c'est dur de revenir sur Terre, c'est magnifique. Vos projets, peut-être, pour revenir à des choses plus concrètes?
Alors les projets musicaux. Sont multiples, ça, il suffit de regarder la plaquette de l'orchestre pour s'apercevoir que c'est un orchestre qui travaille énormément. Bon, des projets de musique de chambre également, mais
des projets picturaux.
Alors en peinture, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout le monde dit alors cette exposition, il y a des retombées. Alors effectivement, beaucoup de gens. Il y avait énormément de monde au vernissage, des gens en sont passés, je pense qu'il y a eu beaucoup de public, beaucoup ont découvert, beaucoup de Parisiens, j'ai eu quelques touches, alors bon, je croise les doigts, j'en parle pas trop, j'espère exposer à Paris, faire quelque chose, voilà, et voilà, c'est à peu près tout. Pour l'instant, c'est un peu trop chaud.
Mais vous reviendrez quand il y aura une exposition à l'Indanga tout seul.
Volontiers. Hein? Ah ben oui, alors là, hein? Ce serait formidable.
Voilà.
Là, il faut demander à Frédéric Ballester.
Merci infiniment d'avoir pris sur votre temps d'enseignant, de musicien et de peintre pour venir jusqu'à nous. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir commencé l'année en votre compagnie.
Moi de même.
À bientôt,
merci.
Et merci.
Merci beaucoup.